Chapitre 22. Les reliques de la mort. Harry Pentland tomba dans l'herbe et se releva aussitôt. Apparemment, ils avaient atterri au coin d'un champ à la lueur du crépuscule. Hermione courait déjà en décrivant un cercle autour d'eux, sa baguette brandie. Protego totalum, salveo maleficia. Cette vieille crapule, ce traître, halta Ron. Il émergea de la cape d'invisibilité et la jeta à Harry.
Hermione, tu es un génie, mais un génie absolu, hein. J'arrive pas à croire que nous nous en soyons sortis.
Cave inimicum, n'avais-je pas dit qu'il s'agissait d'une corne d'éruptif? Ne l'ai-je pas averti? Maintenant, sa maison a explosé.
Ben, bien fait pour lui,
répliqua Ron en examinant son jean déchiré et les écorchures qu'il avait aux jambes.
À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont lui faire?
J'espère qu'ils ne le tueront pas, gémit Hermione. C'est pour ça que je voulais que les mange-morts aperçoivent Harry avant que nous ne disparissions, pour qu'ils sachent que Xenophilius ne mentait pas.
Mais pourquoi me cacher sous la cape? S'étonna Ron.
Ron, tu es censé être cloué au lit par une éclabouille. Ils ont kidnappé Luna parce que son père soutenait Harry. Qu'arriverait-il à ta famille s'il savait que tu es avec lui?
Mais tes parents à toi?
Ils sont en Australie, répondit Hermione. Ils devraient être en sécurité. Ils ne sont au courant de rien.
Tu es un génie, répéta Ron impressionné.
C'est vrai, Hermione, approuva Harry avec ferveur. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi.
Elle eut un sourire rayonnant, mais redevint grave.
Et Luna?
S'il dit la vérité et qu'elle est toujours en vie, commença Ron,
ne dis pas ça, surtout pas ça, couina Hermione. Elle est forcément en vie, forcément.
Alors j'imagine qu'elle doit être à Azkaban, poursuivit Ron.
Mais est-ce qu'elle y survivra? Il y a des tas de gens qui n'y arrivent pas.
Elle y arrivera, affirma Harry. Envisager le contraire lui était insupportable.
Elle est coriace, Luna. Beaucoup plus coriace qu'on ne pourrait le croire. Elle doit sans doute apprendre des tas de choses aux autres prisonniers sur les Jonchéruines et les Nargoles.
J'espère que tu as raison, dit Hermione.
Elle se passa une main sur les yeux.
Ce serait tellement triste pour Xenophilius si...
S'il n'avait pas essayé de nous vendre aux mange-morts, acheva Ron.
Ouais, c'est vrai. Ils dressèrent la tente et s'y réfugièrent. Ron prépara du thé, après avoir échappé de justesse aux mange-morts, la tente glaciale aux odeurs de moisie leur apparaissait comme une vraie maison, sûre, familière et accueillante.
Oh, pourquoi sommes-nous allés là-bas?
Se lamenta Hermione après quelques minutes de silence.
Harry, tu avais raison. C'était un nouveau Godric Solo, une totale perte de temps. Les reliques de la mort, quelle idiotie! Mais quelle idiotie! Mais finalement,
une pensée soudaine semblait lui être venue en tête.
Peut-être qu'il a inventé tout ça lui-même. Il ne croit sans doute pas du tout aux reliques de la mort. Il voulait simplement nous retenir jusqu'à l'arrivée des mange-morts.
« Je ne crois pas, » dit Ron. « Il est sacrément plus difficile qu'on ne pourrait le penser d'inventer des trucs quand on est en plein stress. Je me suis rendu compte au moment où les rafleurs me sont tombés dessus. Il m'a été beaucoup plus facile de faire semblant d'être Stan parce que je savais des choses sur lui que d'inventer entièrement un personnage imaginaire. Le vieux Lovegood était sous pression. Il essayait de tout faire pour nous garder chez lui. À mon avis, il nous a dit la vérité. » Ou ce qu'il croit être la vérité, simplement pour qu'on continue à parler.
De toute façon, je ne crois pas que ce soit très important, soupira Hermione. Même s'il était sincère, je n'ai jamais entendu de telles absurdités de toute ma vie.
Oui, mais attends, reprit Ron. La Chambre des Secrets, aussi, était censée être un mythe, non?
Les reliques de la mort ne peuvent pas exister, Ron.
Tu n'arrêtes pas de le répéter. « Mais il y en a au moins une qui existe, » rétorqua Ron. « La cape d'invisibilité de Harry. »«
Le conte des trois frères n'est qu'une histoire, » déclara Hermione avec fermeté. « Une histoire sur la peur que la mort inspire aux humains. Si survivre était aussi simple que se cacher sous la cape d'invisibilité, nous aurions déjà tout ce qu'il nous faut. »«
Pas sûr. Une baguette invincible ne nous ferait pas de mal. » assura Harry en tournant entre ses doigts la baguette de prunelier qu'il détestait tant.
« Ces choses-là n'existent pas, Harry.
Tu as dit qu'il y avait plein de baguettes, le bâton de la mort et je ne sais quoi.
Bon, d'accord, si ça t'amuse. Tu peux toujours croire que la baguette de sureau est bien réelle, mais la pierre de résurrection.
Elle fit un geste des doigts pour dessiner les guillemets imaginaires autour du mot et sa voix débordait d'ironie.
Aucune magie ne peut ressusciter les morts. Et c'est tout.
Quand ma baguette s'est connectée à celle de tu sais qui, ma mère et mon père sont apparus.
Et Cédric, il n'était pas ressuscité, répliqua Hermione. Ce genre de pâle imitation n'a rien à voir avec une véritable résurrection.
La fille dans le conte n'est pas vraiment revenue. L'histoire dit qu'après leur mort, les gens appartiennent au monde des morts. Mais le deuxième frère peut quand même la voir et lui parler. Il a même vécu avec elle pendant un moment.
Il décela une certaine inquiétude sur le visage d'Hermione, mais aussi quelque chose d'autre, moins facile à définir.
Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Ron, il comprit que c'était de la peur. Il l'avait effrayé en lui parlant de vivre avec des morts.
« Et ce Peverell enterré à Godric's Hollow, reprit-il aussitôt, s'efforçant de paraître parfaitement sain d'esprit, tu ne sais rien sur lui ?»«
Non,
répondit-elle, visiblement soulagée qu'il ait changé de sujet.
« J'ai cherché des informations après avoir vu la marque sur sa tombe. S'il avait été célèbre ou s'il avait accompli quelque chose d'important, je suis sûr qu'il figurerait dans l'un de nos livres. Le seul endroit où j'ai trouvé le nom de Peverell, c'est dans « Noble par nature », une généalogie des sorciers. « Je l'ai emprunté à créature », expliqua-t-elle à Ron, qui haussa les sourcils. « Le livre donne la liste des familles de sang pur sans postérité mâle. Apparemment, les Peverell sont l'une des premières familles à avoir disparu. »«
Sans postérité mâle ?» répéta Ron.
« Ça veut dire que le nom n'existe plus », répondit Hermione. « C'est le cas depuis des siècles en ce qui concerne les Peverell. » Ils ont peut-être des descendants, mais qui portent des noms différents.
Soudain, le souvenir qu'avait vaguement remué le nom de Peverell revint à la mémoire de Harry, clair et net. Il revoyait un vieil homme crasseux qui brandissait une horrible bague sous le nez d'un envoyé du ministère.
« Marvolo Gaunt !» s'écria-t-il.
« Pardon ?»
s'étonnèrent Ron et Hermione d'une même voix.
« Elvis Marvolo Gaunt, le grand-père de vous savez qui. Dans la pancine, avec Dumbledore, Marvolo Gaunt a dit qu'il descendait des Peverell. »
Ron et Hermione parurent perplexes.
« La bague transformée en horcrux, Marvolo Gaunt a dit que les armoiries des Peverell était gravé dessus. Je l'ai vu la brandir devant le type du ministère. Il a même failli la lui coller dans le nez.
Les armoiries des Peverell ?
Répéta Hermione.
Tu as vu à quoi elles ressemblaient ?
Pas vraiment,
répondit Harry qui essayait de se rappeler.
Autant que je m'en souvienne, elles n'avaient rien de remarquable, quelques tresses et tout. Lorsque je les ai vues de près,
la pierre avait déjà été fendue. Hermione venait de comprendre, car Harry la vit soudain écarquiller les yeux. Ron les regarda successivement, l'air stupéfait.
« Par Merlin ! Vous croyez que c'était encore ce signe ? Le signe des reliques ?»«
Pourquoi pas ?» s'exclama Harry, surexcité. « Marvolo Gaunt était un vieil idiot ignorant qui vivait comme un porc. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses ancêtres. » Si cette bague était passée de génération en génération pendant des siècles, peut-être ne savait-il même pas ce qu'elle était vraiment.
Il n'y avait pas un seul livre dans cette maison, et croyez-moi, il n'était pas du genre à lire des contes de fées à ses enfants. Il devait être ravi de penser que les traits gravés sur la pierre représentaient des armoiries, parce que, pour lui, avoir un sang pur donnait quasiment un statut royal.
Oui, « Tout cela est très intéressant, » reprit Hermione avec précaution.
« Mais Harry, si tu penses ce que je pense que tu penses ?»«
Et alors, pourquoi pas ?»«
Pourquoi pas ?»
répliqua Harry, renonçant à toute prudence.
« C'était une pierre, non ?»
Il se tourna vers Ron en quête de soutien.
« Si c'était la pierre de résurrection ?»
Ron en resta bouche bée.
« Non, bon, non !» Mais est-ce qu'elle pourrait encore marcher après avoir été fendue par Dumbledore ?
Marcher ? Marcher, Ron ? Elle n'a jamais marché.
Il n'existe pas de pierre de résurrection. »
Hermione s'était levée d'un bond, l'air exaspéré, furieuse.
« Harry, tu essayes de faire tout concorder avec l'histoire des reliques. »«
De faire tout concorder ?» répéta-t-il.
« Hermione, ça concorde tout seul. »
Je sais maintenant que le signe des reliques de la mort était gravé sur cette pierre, et Gunt a dit qu'il était un descendant des Peverell.
Il y a une minute, tu nous disais que tu n'avais jamais vu exactement la marque qui figurait sur la pierre.
À ton avis, où se trouve-t-elle à présent ? Demanda Ron à Harry.
Qu'est-ce qu'en a fait Dumbledore après l'avoir brisée ?
Mais l'imagination de Harry courait toute seule, loin devant celle de Ron et d'Hermione. Trois objets, ou reliques, qui, si on les réunit, feront de leur possesseur le maître de la mort, maître, vainqueur, conquérant. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il se vit en possession des reliques face à Voldemort, dont les Horcruxes n'étaient pas de taille à lui résister.
Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit.
Était-ce la réponse ? Les reliques contre les Horcruxes, y avait-il un moyen d'assurer son triomphe s'il devenait le maître des reliques de la mort ? Serait-il hors de danger ?
Harry ?
Mais il entendit à peine Hermione. Il avait sorti sa cape d'invisibilité et la faisait glisser entre ses doigts. Son étoffe avait la fluidité de l'eau, la légèreté de l'air. Il avait passé près de 7 années dans le monde des sorciers et jamais il n'avait vu quelque chose d'équivalent. Elle était exactement telle que Xenophilius l'avait décrite. Une cape qui rend réellement et totalement invisible et dont les effets durent éternellement, offrant à son détenteur une cachette permanente, impénétrable, quels que soient les sorts qu'on lui jette. Puis avec un tressaillement, il se souvint.
Dumbledore avait ma cape le soir où mes parents sont morts.
Sa voix tremblait, et il sentait des couleurs lui monter au visage, mais peu lui importait.
Ma mère a dit à Sirius que Dumbledore avait emprunté la cape. C'était pour ça. Il voulait l'examiner parce qu'il pensait qu'il s'agissait de la troisième relique. Ignotus Peverell est enterré à Godric's Hollow.
Harry faisait machinalement les 100 pas sous la tente. Il avait l'impression que la vérité ouvrait autour de lui de nouveaux et vastes horizons.
« C'est mon ancêtre. Je descends du troisième frère. Tout se tient. »
Il se sentait armé de certitude, d'une véritable foi dans les reliques, comme si la simple idée de les posséder lui donnait déjà une protection, et il éprouvait une grande joie lorsqu'il se tourna à nouveau vers les deux autres.
« Harry !»
répéta Hermione. Mais, les doigts tremblants, il était occupé à ouvrir la bourse accrochée à son cou. « Lila !» dit-il, en lui mettant la lettre de sa mère dans les mains.
« Lila ! C'était Dumbledore qui avait la cape, Hermione ! Pour quelle autre raison l'aurait-il voulu ?
Il n'en avait pas besoin. Il était capable de produire un sortilège de désillusion si puissant qu'il parvenait à se rendre invisible sans cape. Un objet brillant roula sous une chaise. En sortant la lettre, il avait fait tomber le vif d'or. Il se baissa pour le ramasser, et la source des découvertes fabuleuses qui venait de jaillir lui apporta un nouveau présent. Stupéfait, émerveillé, il s'écria.
« Elle est là-dedans ! Il m'a légué la bague ! Elle est dans le vif d'or !
Tu crois ?» Il ne comprenait pas pourquoi. Ron avait l'air interloqué.
Mais c'était si clair, si évident pour Harry. Tout cadrait absolument tout. Sa cape était la troisième relique, et lorsqu'il aurait trouvé le moyen d'ouvrir le vif d'or, il posséderait la deuxième. Après, il n'aurait plus qu'à trouver la première, la baguette de sureau. Et ensuite...
Mais soudain, ce fut comme si un rideau était tombé sur une scène brillamment éclairée. Toute son excitation, tout son espoir et son bonheur s'évanouirent d'un coup. Il se retrouva seul dans l'obscurité et le charme magnifique fut rompu. C'est cela qu'il veut. Son changement de ton inquiéta encore plus Ron et Hermione. Vous savez qui veut la baguette de sureau ? Indifférent à leur visage tendu, incrédule, il leur tourna le dos. Il savait que c'était la vérité.
Tout se tenait. Voldemort ne cherchait pas une nouvelle baguette. Il en cherchait une ancienne, très ancienne, en vérité.
Harry se dirigea vers l'entrée de la tente, oubliant Ron et Hermione, et scruta la nuit, plongé dans ses réflexions. Voldemort avait été élevé dans un orphelinat de moldus. Personne n'aurait pu lui lire les contes de Biddle le Barde quand il était petit, pas plus qu'à Harry. Rares étaient les sorciers qui croyaient aux reliques de la mort. Était-il possible que Voldemort en connaisse l'existence ?
Harry contempla l'obscurité.
Si Voldemort savait ce qu'étaient les reliques de la mort, il aurait certainement essayé de les découvrir et cherché par tous les moyens à se les procurer. Trois objets qui faisaient de leur possesseur le maître de la mort. S'il avait connu les reliques, peut-être n'aurait-il jamais eu besoin des horcruxes. Le simple fait qu'il ait transformé une relique en horcrux n'était-il pas la preuve qu'il ne connaissait pas ce grand et ultime secret de la sorcellerie ? Ce qui signifiait que Voldemort cherchait la baguette de Sureau sans avoir conscience de l'étendue de son pouvoir, sans comprendre qu'elle faisait partie d'un ensemble de trois objets. Car la baguette était celle des trois reliques qu'on ne pouvait cacher, dont l'existence était la mieux connue. La piste sanglante de la baguette de Sureau a éclaboussé les pages de l'histoire de la sorcellerie.
Harry observa le ciel nuageux. Des volutes grises et argentées comme de la fumée glissant devant la lune blafarde. L'éblouissement provoqué par ces découvertes lui donnait une sensation de légèreté. Il retourna dans la tente et éprouva un choc lorsqu'il vit Ron et Hermione debout à l'endroit exact où il les avait laissés. Hermione tenant toujours à la main la lettre de Lily, Ron à côté d'elle, paraissant légèrement anxieux. N'avait-il pas conscience du chemin parcouru au cours de ces dernières minutes ?
Tout est clair, dit Harry, essayant de les attirer à la lumière de ses propres certitudes, de son propre ébahissement. Ça explique tout. Les reliques de la mort sont bel et bien réelles, j'en possède une, peut-être même deux.
Il leur montra le vif d'or.
Et vous savez qui court après la troisième, mais il ne s'en rend pas compte. Il pense simplement qu'il s'agit d'une baguette particulièrement puissante.
« Harry, » coupa Hermione, en s'approchant pour lui rendre la lettre de Lily.
« Je suis désolé, mais je crois que tu te trompes. Que tu te trompes entièrement.
« Tu ne vois donc pas ? Tout s'enchaîne !»«
Non, » répliqua-t-elle.
« Pas du tout. Harry, tu te laisses simplement emporter. S'il te plaît, »
poursuivit-elle, alors qu'il s'apprêtait à parler,
« s'il te plaît, réponds à cette simple question. Si les reliques de la mort existaient vraiment, et que Dumbledore les sut, qu'il ait su que la personne qui les posséderait toutes les trois serait le maître de la mort, Harry, pourquoi ne te l'aurait-il pas révélé ? Pourquoi ? »
Sa réponse était prête. « Tu as été la première à le dire, Hermione. Il faut le découvrir par soi-même. C'est une quête. »«
J'ai simplement dit ça pour essayer de te convaincre d'aller chez les Lovegood !» s'écria Hermione, exaspérée. « Je n'y croyais pas vraiment !»
Harry ne lui prêta pas attention. C'était une habitude chez Dumbledore de m'amener à faire des découvertes par moi-même. Il mettait ma propre force à l'épreuve. Il me faisait prendre des risques. C'est exactement le genre de choses auxquelles il m'a habitué.
« Harry, il ne s'agit pas d'un jeu ni d'un exercice. Nous sommes dans la réalité. Et Dumbledore t'a donné des instructions très claires. Trouver et détruire les horcruxes. Ce symbole ne signifie rien. Oublie les reliques de la mort. Nous ne pouvons nous permettre de nous écarter de notre chemin. »
Harry l'écoutait à peine. Il ne cessait de retourner le vif d'or entre ses mains, s'attendant presque à ce qu'il s'ouvre, à ce qu'il révèle la pierre de résurrection pour apporter à Hermione la preuve qu'il avait raison, que les reliques de la mort étaient une réalité. Hermione en appela à Ron.
« Tu ne crois pas à ça, n'est-ce pas ?»
Harry leva les yeux. Ron hésita.
« Je ne sais pas.
Je veux dire,
« Il y a des éléments qui paraissent concorder, » répondit Ron avec maladresse. « Mais quand on regarde l'ensemble, »
il prit une profonde inspiration.
« Je pense que nous sommes censés nous débarrasser des Horcruxes, Harry. C'est la mission que Dumbledore nous a confiée. Peut-être que nous devrions oublier cette histoire de reliques. »
« Merci, » dit Hermione. Je vais prendre le premier tour de garde. »
D'un pas décidé, elle passa devant Harry et s'assit à l'entrée de la tente, mettant avec une détermination féroce un point final à la discussion.
Harry dormit à peine cette nuit-là. L'idée des reliques de la mort s'était emparée de lui et il ne pouvait se reposer tant que ses pensées s'agitaient dans sa tête. La baguette, la pierre, la cape. Si seulement il pouvait les posséder toutes. Je m'ouvre au terme. Mais quel était ce terme? Pourquoi ne pouvait-il prendre la pierre dès maintenant? Si seulement il l'avait eue en main, il aurait pu poser ses questions à Dumbledore en personne. Dans l'obscurité, Harry murmura des paroles au vif d'or, essayant tout, même le fourche-langue. Mais la balle dorée refusait de s'ouvrir. Et la baguette? La baguette de Sureau, où était-elle cachée? Où Voldemort menait-il ses recherches en cet instant?
Harry aurait voulu que sa cicatrice le brûle à nouveau et lui révèle les pensées du Seigneur des Ténèbres, car pour la première fois, ils étaient tous deux unis dans la quête d'une même chose. Bien sûr, Hermione n'aimerait pas cette idée, mais de toute façon, elle n'y croyait pas. D'une certaine manière, Xénophilius avait eu raison.
« Limité, étriqué, étroite d'esprit !»
La vérité, c'était qu'elle avait peur de la notion même des reliques de la mort, surtout de la pierre de résurrection. Harry pressa ses lèvres contre le vif d'or, l'embrassant, l'avalant presque, mais le métal froid ne céda pas. L'aube était presque là, lorsqu'il se souvint de Luna, seule dans sa cellule d'Azkaban, entourée de détraqueurs, et il eut soudain honte de lui-même. Ses considérations fébriles sur les reliques l'avaient complètement chassé de son esprit. Si seulement il pouvait lui venir en aide, mais il serait pratiquement impossible d'attaquer des détraqueurs en si grand nombre. Maintenant qu'il y pensait, il n'avait pas encore tenté de créer un patronus avec la baguette de prunelier. Il faudrait qu'il essaye dans la matinée. S'il avait pu obtenir une meilleure baguette. Le désir de posséder la baguette de Sureau, le bâton de la mort, indomptable, invincible, le saisit une fois de plus. Au matin, ils démontèrent la tente et repartirent sous une épouvantable averse. La pluie les poursuivit sur la côte, où ils établirent leur campement ce soir-là, et persista pendant toute la semaine, dans des paysages détrempés que Harry trouvait mornes et déprimants. Il ne pensait plus à rien d'autre qu'aux reliques de la mort. C'était comme si une flamme avait jailli en lui que rien, ni la totale incrédulité d'Hermione, ni les doutes persistants de Ron, ne pouvaient éteindre. Pourtant, plus l'envie de retrouver les reliques brûlait en lui, moins il était heureux. Il en rendait Ron et Hermione responsables. Leur indifférence obstinée était aussi détestable pour son moral que la pluie incessante, mais ni l'une ni l'autre ne pouvait entamer sa certitude qui demeurait absolue. La croyance de Harry dans l'existence des reliques, son aspiration à les posséder, le consumait avec une telle force qu'il se sentait de plus en plus isolé, détaché des deux autres et de leur obsession de chercher les Horcruxes.
« Notre obsession !» dit Hermione d'une voix basse, féroce.
Harry avait eu l'imprudence d'utiliser ce mot un soir après qu'Hermione lui eût reproché son manque d'intérêt pour la découverte des Horcruxes.
« Ce n'est pas nous qui sommes obsédés, Harry. Nous, on essaye de faire ce que Dumbledore voulait qu'on fasse. »
Mais il resta imperméable à cette critique voilée. Dumbledore avait confié à Hermione le symbole des reliques pour qu'elle en déchiffre la signification. Et il avait aussi caché, Harry n'en démordait pas, la pierre de résurrection dans le vif d'or. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit, le maître de la mort. Pourquoi Ron et Hermione ne comprenaient-ils pas?
Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, cita Harry d'un ton calme.
Je croyais que c'était tu sais qui qu'on était censé combattre, répliqua Hermione.
Harry renonça à discuter davantage. Même le mystère de la biche argentée, dont les deux autres tenaient absolument à débattre, semblait moins important désormais aux yeux de Harry. Ce n'était plus qu'un épisode secondaire qui conservait un vague intérêt. La seule autre chose qui comptait pour lui, c'était que sa cicatrice avait recommencé à le picoter. Il faisait tout, cependant, pour que les autres ne le sachent pas. Chaque fois que cela se produisait, il s'arrangeait pour être seul, mais il était déçu par ce qu'il voyait. Les visions qu'il partageait avec Voldemort n'avaient plus la même qualité. Elles étaient devenues brouillées, instables, comme une image qui oscille entre le flou et la netteté. Harry parvenait tout juste à distinguer les contours incertains d'un objet qui avait l'air d'un crâne et d'une forme semblable à une montagne constituée d'ombre plus que de matière. Habitué à des images aussi claires que la réalité, Harry était désorienté par ce changement. Il craignait que la connexion entre lui et Voldemort ne se soit dégradée, une connexion qu'il redoutait, mais à laquelle, quoi qu'il en ait dit à Hermione, il attachait aussi beaucoup de prix. D'une certaine manière, Harry liait le caractère vague, décevant de ces images à la destruction de sa baguette, comme si c'était la faute de la baguette de Prunelier s'il ne pouvait plus voir aussi bien qu'auparavant dans l'esprit de Voldemort. À mesure que passaient les semaines, Harry, bien qu'il fût tout entier absorbé par sa nouvelle idée, ne put manquer d'observer que Ron prenait apparemment les choses en main. Peut-être parce qu'il était décidé à se rattraper après les avoir abandonnés, peut-être aussi parce que la langueur dans laquelle Harry s'enfonçait stimulait les qualités de chef qui sommeillaient en lui. Ron était maintenant celui qui encourageait et exhortait les deux autres à agir.
« Il reste 3 horcruxes !» ne cessait-il de répéter. « Il nous faut un plan d'action !» Réfléchissons un peu. Quels sont les endroits où nous ne sommes pas encore allés? Revoyons la liste. L'orphelinat,
le chemin de traverse, Poudlard, la maison des Gédusor, Barjot et Burke, l'Albanie, tous les lieux où il savait que Tom Gédusor avait vécu, travaillé, séjourné ou tué. Ron et Hermione les passèrent en revue, Harry se joignant à eux seulement pour qu'Hermione cesse de le harceler.
Il aurait été beaucoup plus heureux de rester assis en silence à essayer de lire les pensées de Voldemort et d'en apprendre davantage sur la baguette de Sureau. Mais Ron insistait pour se rendre dans des endroits de plus en plus improbables, simplement, Harry en était conscient, pour rester toujours en mouvement.
« On sait jamais !» était devenu son refrain constant.
« Flagley-le-Haut est un village de sorciers. Peut-être qu'il y a vécu. Allons y jeter un coup d'œil. »
Ces fréquentes incursions dans les territoires de la sorcellerie les amenèrent parfois à portée de vue de rafleurs.
« Et certains ont la réputation d'être aussi redoutables que les mantes-morts, » dit Ron. « Ceux à qui j'ai eu affaire étaient plutôt minables, mais d'après Bill, il y en a de très dangereux. Hein. Ils ont expliqué à Potterveil... »«
À quoi ?» s'étonna Harry.
« Potterveil ? Je vous avais pas dit que ça s'appelait comme ça ?»«
L'émission que j'essayais de capter à la radio... » La seule qui révèle la vérité sur ce qui se passe.
Toutes les autres suivent la ligne de tu sais qui, toutes sauf Potterveil.
Ah, je voudrais vraiment que vous l'entendiez, mais il est très difficile de la recevoir.
Ron passait des soirées à tapoter la radio avec sa baguette magique sur des rythmes divers, faisant tourner le cadran des longueurs d'onde. De temps à autre, ils entendaient des bribes de conseils sur la façon de traiter la dragoncelle et ils eurent même droit un jour à quelques mesures d'un chaudron plein de passion. En même temps qu'il agitait sa baguette, Ron essayait de trouver le mot de passe, marmonnant une suite de mots choisis au hasard.
« Normalement, les mots de passe ont quelque chose à voir avec l'ordre, » leur expliqua-t-il.
« Bill est très doué pour les deviner, il finirait bien par en trouver un. »
Mais ce ne fut pas avant le mois de mars que la chance sourit enfin à Ron.
Harry était assis à l'entrée de la tente, pour son tour de garde, et contemplait d'un œil absent une touffe de jacinthe des bois qui avait réussi à percer le sol encore glacé, lorsque Ron, derrière lui, s'écria d'un ton surexcité «
Ça y est,
Ça y est, je l'ai, je l'ai. Le mot passe, c'était Albus. Viens, viens vite, Harry.
Arraché pour la première fois depuis des jours à ses méditations sur les reliques de la mort, Harry se hâta de retourner dans la tente où Ron et Hermione étaient agenouillés par terre à côté de la petite radio. Hermione, qui avait astiqué l'épée de Gryffondor simplement pour s'occuper, regardait bouche bée le minuscule haut-parleur d'où s'élevait une voix familière.
« Nos excuses pour avoir été momentanément absent des ondes en raison des visites que nous ont rendues quelques charmants mange-morts. »
« Mais c'est Lee Jordan !» s'exclama Hermione.
« Mais je sais bien !» dit Ron, avec un sourire rayonnant.
« Super, non ?»«
Avons maintenant trouvé un endroit sûr !» expliquait Lee. « Et j'ai le plaisir de vous annoncer que deux de nos collaborateurs réguliers se sont joints à moi ce soir. Bonsoir, les amis !»«
Salut !»«
Bonsoir, Rivière !»«
Rivière, c'est Lee !» précisa Ron. « Ils ont tous un surnom, mais généralement, on sait. »
l'interrompit Hermione.
Cependant, avant d'écouter Royal et Romulus, poursuivit Lee, nous allons consacrer quelques instants à vous parler des morts que Sorcellerie Info et la Gazette du Sorcier n'ont pas jugé suffisamment importantes pour les mentionner. C'est avec beaucoup de tristesse que nous informons nos auditeurs des meurtres de Ted Tonk et de Dirk Cresswell.
Harry eut un soudain accès de nausée. Avec Ron et Hermione, ils échangèrent des regards horrifiés.
Un gobelin, du nom de Gornuk, a également été tué. On pense que le nez moldu d'Ine Thomas et un deuxième gobelin qui semblait tous deux voyager avec Tonk, Cresswell et Gornuk ont pu s'échapper. Si Dean nous écoute, ou si quelqu'un sait où il se trouve, je signale que ses parents et ses sœurs attendent désespérément de ses nouvelles. Dans le même temps, à Gadley, 5 moldus de la même famille ont été trouvés morts à leur domicile. Les autorités moldues attribuent ces décès à une fuite de gaz, mais des membres de l'Ordre du Phénix nous font savoir qu'ils ont en fait succombé à un sortilège de mort. Une preuve de plus, s'il était nécessaire, que le massacre de moldus est devenu une sorte de loisir sportif sous le nouveau régime. Enfin, nous avons le regret d'annoncer à nos auditeurs que les restes de Bathilda Tour-de-Sac ont été découverts à Godric's Hollow. Les premières constatations laissent penser que sa mort remonte à plusieurs mois. L'Ordre du Phénix nous informe que son corps portait des marques caractéristiques de blessures infligées par la magie noire. Je voudrais maintenant demander à tous nos auditeurs de se joindre à nous pour observer une minute de silence à la mémoire de Ted Tonk et de Dirk Cresswell, de Bathilda Tour-de-Sac, de Gornuk et des Moldus dont nous ne connaissons pas le nom, mais dont nous regrettons profondément le meurtre par les mange-morts.
Le silence tomba et Harry, Ron et Hermione se turent. Harry avait hâte d'en entendre davantage, mais en même temps, il avait peur de ce qui allait suivre. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait pleinement relié au monde extérieur.
« Merci !» reprit la voix de Lee. « Maintenant, nous allons nous tourner vers Royal, un habitué de notre émission, qui va nous apporter les dernières informations sur les conséquences que le nouvel ordre de la sorcellerie a entraînées pour le monde des moldus. »«
Merci, Rivière !»
dit une voix grave, mesurée, rassurante, qu'on ne pouvait confondre avec aucune autre.
« Kingsley !» s'exclama Ron. « On sait !»
coupa Hermione en le faisant taire.
« Les moldus ne connaissent toujours pas l'origine de leur malheur, mais ils continuent de subir de lourdes pertes, » déclara Kingsley. « Nous entendons toujours, cependant, des histoires exemplaires sur des sorcières et des sorciers qui risquent leur propre vie pour protéger des amis ou des voisins moldus, souvent à l'insu de ces derniers. Je voudrais lancer un appel à nos auditeurs. Pour qu'ils les imitent, par exemple, en jetant un sortilège de protection sur toutes les maisons de moldus situées dans leurs rues. De nombreuses vies pourraient être sauvées en prenant quelques mesures aussi simples.
Et que répondriez-vous, Royal, à ceux de nos auditeurs qui nous disent qu'en cette période périlleuse, on devrait penser aux sorciers d'abord ? Demanda Lee.
Je leur répondrais qu'il n'y a qu'un pas entre les sorciers d'abord et les sangs purs d'abord. Ensuite, « on passe directement au mange-mort, » répondit Kingsley. « Nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas ? Chaque vie a la même valeur et vaut la peine d'être sauvée. »«
Voilà qui est bien dit, et je voterai pour vous comme ministre de la magie si nous sortons un jour de ce gâchis, » assura Lee. Maintenant, je passe la parole à Romulus pour notre rubrique très populaire, les copains de Potter.
« Merci, Rivière !» répondit une autre voix familière.
Ron voulut parler, mais Hermione l'interrompit en murmurant
« On sait que c'est Lupin !»«
Romulus, continuez-vous d'affirmer, comme chaque fois que vous avez participé à notre émission, que Harry Potter est toujours vivant ?»«
Je l'affirme !» dit Lupin d'un ton ferme. « Pour moi, il ne fait aucun doute que sa mort, si elle survenait, serait annoncée aussi largement que possible par les mange-morts, car elle porterait un coup mortel au moral de ceux qui s'opposent au nouveau régime. Le survivant reste le symbole de tout ce pourquoi nous combattons, le triomphe du bien, le pouvoir de l'innocence, le besoin de résister. »
Harry sentit monter en lui un mélange de honte et de gratitude. Lupin, lui avait-il pardonné les choses terribles qu'il lui avait dites lors de leur dernière rencontre ?
Et quel message voudriez-vous transmettre à Harry si vous étiez sûr qu'il vous écoute, Romulus ?
Je voudrais lui assurer que nous sommes de tout cœur avec lui, répondit Lupin.
Il hésita légèrement, puis ajouta :
Je lui conseillerais aussi de suivre son instinct qui est excellent et qui lui indique presque toujours la bonne voie.
Harry regarda Hermione. Elle avait les larmes aux yeux.
« Presque toujours la bonne voie, » répéta-t-elle.
« Au fait, vous ne l'avez pas énoncé,
» lança Ron, surpris de son propre oubli. « Bill m'a rapporté que Lupin est retourné vivre avec Tonk, et apparemment, elle a un tour de taille de plus en plus important. »«
À présent, nos dernières nouvelles sur les amis de Harry Potter qui ont eu à souffrir de leur loyauté, » disait Lee.
« Eh bien, comme le savent déjà nos plus fidèles auditeurs, plusieurs partisans déclarés de Harry Potter ont été emprisonnés, notamment Xenophilius Lovegood, ancien directeur du magazine Le Chicaneur,
répondit Lupin.
Au moins, il est toujours vivant, marmonna Ron.
Nous avons également entendu dire, au cours de ces dernières heures, que Rubeus Hagrid...
Tous trois faillirent s'étrangler et manquèrent presque le reste de la phrase.
Garde-chasse, bien connu de Poudlard, a échappé de peu à une arrestation sur le territoire même de l'école où, selon la rumeur, il aurait organisé dans sa maison une fête sur le thème « Soutien à Harry Potter ». Hagrid n'a cependant pas été capturé et serait, croit-on, en fuite.
Quand on veut échapper au mange-mort, j'imagine que ça doit aider d'avoir un demi-frère de 5 mètres de hauteur, fit remarquer Lee.
En effet, ça donne un certain avantage, admit Lupin d'un ton grave. Puis-je simplement ajouter que, bien que nous approuvions tous ici, à Potterdale, l'état d'esprit de Hagrid, nous conseillons malgré tout aux partisans les plus fervents de Harry Potter de ne pas imiter son exemple. Dans le climat actuel, donner une fête pour un soutien à Harry Potter n'est peut-être pas la chose la plus sage.
Vous avez raison, Romulus, reprit Lee. Nous vous suggérons donc de manifester votre ferveur envers l'homme à la cicatrice en forme d'éclair en écoutant plutôt Potterveille. Et maintenant, passons aux nouvelles concernant l'autre sorcier, aussi insaisissable que Harry Potter. Nous avons coutume de l'appeler le chef mange-mort. Et voici, pour nous donner son point de vue sur les rumeurs les plus démentes qui circulent au sujet de ce personnage, un nouvel invité que je suis heureux de vous présenter, Rongeur.
Rongeur ?
Répéta une autre voix familière. Harry, Ron et Hermione s'écrièrent tous ensemble
« Fred !»
« Ce serait pas George plutôt ?»«
Je crois que c'est Fred !»
confirma Ron en se penchant vers la radio d'où s'élevait la voix de l'un des jumeaux.
« Je refuse d'être rongeur. Il n'en est pas question. Je vous ai dit que je voulais être appelé Rapière. »«
Ah, très bien ! Alors, Rapière, pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les diverses histoires qu'on entend circuler à propos du chef Mangemort ?»
« Oui, Rivière, je peux, »
répondit Fred.
« Comme tous nos auditeurs le savent sûrement, à moins qu'ils ne soient cachés dans une mare au fond de leur jardin ou dans un endroit semblable, la stratégie de vous-savez-qui, consistant à rester dans l'ombre, crée un agréable petit climat de panique. Si tous les témoins qui affirment l'avoir vu quelque part disaient vrai, nous aurions au moins 19 vous-savez-qui en train de se promener un peu partout. »
« Ce qui est bien pratique pour lui, bien sûr, » fit remarquer Kingsley. « En laissant planer le mystère, il répand une plus grande terreur que s'il se montrait au grand jour. »«
Tout à fait d'accord, » approuva Fred.
Alors, essayons de retrouver un peu notre calme. La situation est suffisamment détestable pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter de nouvelles inventions. Par exemple, l'idée que vous savez qui serait désormais capable de tuer quelqu'un d'un simple coup d'œil. Rappelons aux auditeurs que ce sont les basiliques qui possèdent ce pouvoir. Voici un test très simple. Vérifiez si la chose qui vous observe est pourvue de jambes. Si oui, vous pouvez la regarder dans les yeux. Mais s'il s'agit vraiment de vous savez qui, il y a de fortes chances pour que ce soit la dernière chose que vous aurez l'occasion de faire dans votre vie.
Pour la première fois depuis des semaines et des semaines, Harry éclata de rire. Il sentait le poids de la tension le quitter.
Et les rumeurs selon lesquelles on le verrait souvent à l'étranger, demanda Lee.
Qui ne souhaiterait pas partir un peu en vacances après avoir accompli un si dur travail,
répliqua Fred.
Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas se laisser bercer par une fausse sensation de sécurité sous prétexte qu'il aurait quitté le pays. Peut-être est-ce vrai, peut-être pas. Mais un fait demeure. Quand il le veut, il est capable de filer plus vite que Severus Rogue confronté à une bouteille de shampoing. Alors, ce n'est pas parce qu'il est loin qu'il faut vous croire à l'abri si vous avez l'intention de prendre des risques. Je n'aurais jamais pensé dire un jour une chose pareille.
Ben, la sécurité d'abord.
Merci beaucoup pour ces paroles de grande sagesse, Rapierre, conclut Lee. Et voilà, nous arrivons à la fin d'une nouvelle émission de Potterveille. Nous ne savons pas quand il nous sera possible d'émettre à nouveau, mais vous pouvez être sûr que nous reviendrons. Continuez à chercher la fréquence. Le prochain mot de passe sera « Folœil ». Protégez-vous les uns les autres et gardez confiance. Bonne nuit !
Le cadran de la radio tourna tout seul, et la lumière qui éclairait les longueurs d'onde s'éteignit. Harry, Ron et Hermione avaient toujours un sourire radieux. Entendre des voix familières, amicales, constituait un extraordinaire stimulant. Harry s'était tellement habitué à leur isolement qu'il en avait presque oublié que d'autres résistaient également à Voldemort. C'était comme s'il s'était éveillé d'un long sommeil.
« Pas mal, hein ?» dit Ron d'un ton joyeux.
« Oh, formidable !» répondit Harry.
« C'est tellement courageux de leur part !»
soupira Hermione avec admiration.
« S'ils étaient découverts !»
« Il n'arrête pas de bouger, » fit remarquer Ron, « comme nous. »«
Tu as entendu ce que disait Fred ?» demanda Harry, d'un ton fébrile.
À présent que l'émission était terminée, ses pensées se recentraient sur son obsession dévorante. « Il est à l'étranger. Il continue à chercher la baguette, je le savais. »«
Harry !
Mais enfin quoi, Hermione ? Pourquoi refuses-tu de l'admettre ? Vol ! Harry, non ! »
Demort cherche la baguette de Sureau.
Le nom est tabou !»
beugla Ron qui se leva d'un bond, alors qu'un craque sonore retentissait à l'extérieur de la tente.
« Je te l'avais dit, Harry. Je te l'avais dit. On peut plus le prononcer. Il faut renouveler les sortilèges de protection autour de nous vite. C'est comme ça qu'il trouve. »
Mais Ron s'interrompit, et Harry savait pourquoi. Le scrutoscope posé sur la table s'était allumé et avait commencé à tourner. Ils entendaient des voix s'approcher, des voix grossières, surexcitées. Ron sortit le déluminateur de sa poche et l'actionna. Les lampes s'éteignirent.
« Sortez les mains en l'air !»
lança dans l'obscurité une voix rauque.
« Nous savons que vous êtes là-dedans. Il y a une douzaine de baguettes pointées sur vous, et peu importe sur qui tomberont nos maléfices. »